11h19, la conférence de presse quotidienne du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se déroule en ce moment. Sabrina Rivet va nous revenir dès qu'elle sera complétée avec tous les détails. Je vous présente mon prochain invité, docteur qui a été pionnier dans son domaine pour venir en aide aux gens qui ont des problèmes de dépendance, avec notamment le Centre Nouveau Départ. Mais c'est aussi un omnipraticien. Il a accepté gentiment de répondre à vos questions de santé. Docteur Jean-Pierre Chiasson, bonjour.
Bonjour, Monsieur Houde.
Comment allez-vous, mon cher docteur?
Très grande forme. J'essaie de cultiver la paix intérieure. En fait, c'est le plus beau jardin.
Oui, mais docteur Chiasson, je vous connais comme un nageur olympique. Vous étiez quelqu'un qui faisait je ne sais pas combien de kilomètres en piscine et là, vous êtes confiné chez vous. Comment faites-vous?
Ce que je fais, je me lève tôt, je vais faire des marches, je fais un peu de push-up, je me garde l'esprit occupé, je lis, je fais des émissions de radio et de télévision et je prépare des cours et des conférences.
Vous lâchez pas. Docteur Chiasson, je voudrais que, avant qu'on prenne des appels, les gens peuvent nous téléphoner au 514-790-9850, 514-790-9850. Très gentil d'avoir accepté. J'aimerais qu'on parle d'un problème pressant. Les itinérants, les gens qui souffrent de santé mentale, les gens qui souffrent de dépendance, avec une crise qui nous déborde. Quel est votre point de vue là-dessus pour la situation ici à Montréal et au Québec?
Écoutez, ma spécialité, c'est en dépendance. Je vous dirais que n'importe... D'ailleurs, parmi les itinérants, il y a beaucoup de gens qui ont soit des problèmes de dépendance ou de santé mentale, qui ont les deux. Mais n'importe qui a un problème de dépendance, que ce soit l'alcool, des médicaments, des drogues dures ou même du cannabis, ce sont des gens d'emblée plus vulnérables. On sait que chez un toxicomane, l'espérance de vie est diminuée de 15 ans. Alors, dans le contexte d'une crise semblable, d'une intensité telle qu'on n'a pas connue depuis les années 1917, je pense que ces gens-là sont beaucoup plus vulnérables. D'abord d'être infectés, d'être des agents pour disséminer l'infection et d'être malade et de mourir prématurément. C'est un facteur de risque non négligeable. Parce que toutes les mises en garde disent aux gens que les gens plus vieux sont plus vulnérables, mais les gens porteurs de maladies chroniques sont plus vulnérables. La dépendance est une maladie chronique.
Docteur Chiasson, il y a sans doute des parents très inquiets qui sont devenus des sortes de codépendants, mais qui doivent s'occuper d'un fils, d'une fille qui font partie de ces gens vulnérables, qui luttent contre leur dépendance, vous l'avez dit, à l'alcool ou aux drogues. Ces parents qui risquent d'être exposés à des situations extrêmement pénibles au cours des prochains jours, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation où on a un proche qui, justement, je ne sais pas, en état de manque ou encore en surconsommation, agit de façon incohérente, voire psychotique?
Bien, écoutez, c'est intéressant de poser cette question-là. Depuis quelques jours, j'ai beaucoup d'appels et je fais beaucoup de consultations par téléphone ou FaceTime pour aider ces gens-là, parce que souvent, même les centres de thérapie sont hésitants à accepter des nouveaux cas, sont acceptés et refusent de prendre des gens qui viennent externes, et il y a moyen de les supporter quand même à distance et d'aider les parents là-dedans pour qu'ils puissent être plus forts, mettre des limites, mais en même temps d'être aidants, sans se sentir, en fait, dépassé ou découragé. En fait, c'est ce qui se passe souvent. Il y a beaucoup de détresse, en tout cas.
Oui, et cette détresse, elle risque de durer pour un certain temps. Vous, en tant que médecin, diriez-vous que, dans votre longue expérience d'omnipraticien, c'est le genre de choses, parce que j'ai d'autres amis médecins qui m'ont dit... On savait qu'un jour nous allions être submergés par un virus, un coronavirus, et qu'on ne serait pas prêt. Mais aviez-vous déjà dans votre vie, Dr Chiasson, imaginé une pareille ampleur?
Écoutez, je suis un amateur d'histoire et je sais que depuis qu'on a des connaissances quelques mille ans avant le Christ et dans les années qui ont suivi, il y a toujours eu des épidémies. Quand l'humain surexploite la nature prend le dessus. Il y a eu la peste, le choléra, la variole, la fièvre jaune, le SRAS, la grippe asiatique. Et il y a eu des épidémies, particulièrement la grippe espagnole, dans les années 2017-2019, qui a tué entre 50 et 100 millions d'individus.
Exact.
Et ce qui me frappe, il y a eu des phénomènes de désinformation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle la grippe espagnole, parce que l'Espagne, c'est le seul pays qui n'était pas en guerre et qui, en fait, on réagit en informant les autres. Mais ce n'était pas là qui était le foyer primaire. Alors, ce que je vous dis, l'histoire de l'humanité se ressemble. Et au cours des dernières années, il y avait des phénomènes de surconsommation. D'ailleurs, en Amérique, des gens mouraient de surabondance. Obésité, diabète, maladie cardiaque, alcoolisme, toxicomanie, sédentarité. Alors, c'est pas étonnant qu'il soit passé quelque chose que la nature a pris le dessus.
À cela, on pourrait ajouter, et on n'en parle pas parce qu'on pense que c'est derrière nous, le VIH qui donne, entre autres, comme manifestation, le sida. Je regardais des statistiques, Dr Chiasson. On pense que c'est derrière nous, le sida et le VIH. Le sida et le VIH combinés ont tué entre 35 et 40 millions de personnes depuis le début des années 80. Et encore, il y a un an à peine, le sida tuait encore 700 000 personnes à la grandeur de la planète.
Écoutez, c'est une autre manifestation du danger potentiel de certains agents toxiques, des virus comme le VIH. On a, Dieu merci, trouvé certains médicaments, mais en fait, il y a des régions de la planète qui sont sous-alimentées et moins bien servies en termes de médecine puis de pharmacothérapie. Alors, c'est évidemment que c'est une épidémie qui est en cours.
Ouais.
Je pense que, quand même, sans être un épidémiologiste ou un infectiologue, que la façon dont progresse l'épidémie actuellement, elle semble progresser de façon logarithmique. Alors, c'est très inquiétant.
Oui.
Et on n'a pas de moyens, on n'a pas de vaccin. Et je dirais, répéter ce que le premier ministre disait, c'est la distanciation sociale, les mesures d'hygiène, et de respect de son corps et de l'environnement.
C'est des
principes de base qu'on devrait toujours appliquer, d'ailleurs.
Alors, Dr Chiasson, j'invite notre première auditrice à vous poser une question. Caroline, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est... il y a plusieurs magasins d'alimentation maintenant qui on demande de laver ses mains avec mais ça dure pas 20 secondes le lavage de mains. Alors, ce serait pas préférable d'utiliser le gel alcoolisé pour se désinfecter les mains dans ce cas-là?
Alors, ce que j'en sais, ce qui est préférable, c'est les savons qui, en fait, le virus, il est liposoluble, c'est-à-dire qu'il se dissout dans les graisses avec le savon. L'alcool est sûrement efficace, mais le savon est, à mon avis, plus efficace.
Dans ces endroits-là, il y en a que c'est comme des lavabos portatifs aussi, alors la pression de l'eau, on ne se rince pas les mains très bien. Alors, c'est ce que j'ai vécu. Alors, je me demandais, j'ai dit, il me semble que c'est pas très... c'est même pas 20 secondes, hein? Alors, ils disent au moins 20 secondes pour désinfecter les mains. Alors, c'était ma question à savoir si c'était pas préférable que ces magasins-là utilisent peut-être le gel, là, mais...
Oui, ben je connais pas l'intensité, là, mais il faut prendre au moins 20 secondes, se laver les mains avec du savon, puis idéalement prendre son temps, mais déjà, c'est une mesure d'hygiène qui est quand même mieux que ce qu'il y avait il y a un mois.
Merci, Caroline. Jocelyn est en ligne. Allez-y, Jocelyn, posez votre question au docteur Chiasson.
Bonjour, monsieur. Il y a de plus en plus de confirmations que que l'hydroxychloroquine est efficace au point où, en France, le médicament est utilisé au début des symptômes pour diminuer la charge virale avant que le virus fasse des lésions au poumon. Ma question, qu'en pensez-vous, docteur? Et est-ce que ce médicament-là est disponible en quantité suffisante au Québec?
Bien, tout d'abord, il y a une mise en garde du Collège des médecins qui est apparue hier à l'effet qu'il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité, soit de cet antimalarique, l'hydroxychloroquine, et qu'il fallait garder les stocks pour soigner les gens chez qui ça fonctionnait, là, qui ont de l'arthrite rhumatoïde, le lupus ou la malaria. Et deuxièmement, il n'y a aucune preuve de l'efficacité anti-inflammatoire. Est-ce qu'elle diminue la charge virale? Il n'y a aucune preuve de ça. Est-ce que je vous dirais, moi, je vais laisser les scientifiques qui font des recherches cliniques bien structurées d'attendre un certain temps pour qu'on puisse avoir exactement les réponses. Que ce soit avec l'hydroxychloroquine ou que ce soit avec la colchicine dans la goutte, il n'y a pas de preuve. Et moi, je dirais que les mesures d'hygiène de base sont peut-être plus efficaces pour l'instant. On n'a aucune preuve.
Ah, ça, oui, évidemment. Le président Trump n'arrête pas de parler de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine et tout ça. Mais vous confirmez ce que beaucoup d'autres médecins et scientifiques disent, Dr Chiasson. C'est trop tôt pour savoir quel effet ça va avoir.
Il faut regarder s'il n'y a pas plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques.
Imaginez-vous. Aussi, hein? Ouais. Alors, Fatia est en ligne. Bonjour, Fatia.
Bonjour à vous. Bonjour. Moi, ma question pour le docteur, c'est que moi, je suis une ancienne asthmatique qui prend du Symbicort. Et dernièrement, j'ai eu de l'arthrite aussi. Je prends des anti-inflammatoires. Et l'année passée, à l'hôpital, ils m'ont diagnostiqué une nouvelle maladie qui est la sarcoïdose, parce que j'avais des douleurs à la poitrine. Et il paraît qu'il n'y a pas de médicaments. Ils m'ont prescrit de l'Erica, qui est un anti-inflammatoire très, très fort, avec du Tylenol arthritique, des Advil, etc., pour soulager la douleur. C'est une douleur très, très, très intense, qu'on ne peut pas expliquer. Ça me donne de la fatigue et tout. Et en même temps, de l'autre côté, je suis une éducatrice milieu familial. J'ai 9 enfants. Alors, ils nous ont suggéré de laisser nos garderies ouvertes. Et j'ai continué à travailler, alors que je suis porte ouverte à ce virus-là. Et regardez comment je souffre, parce que cette maladie-là donne des essoufflements, des fatigues au réveil.
Alors Fatia, posez votre question.
Ma question, est-ce que je continue mon Erika? Parce que l'Erika, c'est très fort avec les Tylenol arthritiques, les Advil. Et ma pompe, ou qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête?
Moi, je vous dirais, je continuerai les médicaments. L'Erika, c'est de la pré-gabaline qui agit sur un analogue des récepteurs GABA. On s'en sert dans la douleur chronique. C'est pas très puissant. Ça dépend de la dose que vous prenez. Et il n'y a pas, théoriquement, si vous n'avez pas de symptômes de toux, de température ou de fatigue extrême, il faut dire que peut-être avec la somme de maladies que vous avez peut-être de la fatigue. Mais je pense que la température élevée au-dessus de 38 et la fatigue extrême et surtout la toux, sont les symptômes cardinaux qu'il faut surveiller pour l'apparition du corona. Mais vous êtes quand même plus vulnérable qu'une autre compte tenu de votre condition médicale.
Merci beaucoup. Merci, Fatia. On va faire une pause à 11h33 minutes.